Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, les affrontements se sont poursuivis hier dimanche entre les FARDC et les M23 autour de la zone de Tamugenga, plus d'une trentaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. La coordination de l'action humanitaire en RDC et au Tchad alerte déjà sur le déplacement des milliers de personnes dans ce territoire. Au sud Kivu, les villes de Kamituga, Baraka et Uvira ne sont pas reprises comme telles sur la cartographie électorale rendue publique par la CENI. C'est ce que dénonce le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement à travers une correspondance au président de la centrale électorale. L'invité de ce journal est la chef de la section des politiques régionales et provinciales au sein de la division politique de la MONUSCO, Altine Traoré, fait le parallélisme entre le mécanisme conjoint de vérification élargie mis en place au sein de la CRGL et le mécanisme ad hoc issu de l'affaire des routes de Luanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, pour commencer, les affrontements entre les FARDC et les M23 se sont poursuivis hier dimanche autour de la zone de Tamugenga. C'est à plus d'une trentaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Le porte-parole de l'opération Sokola 2 invite la population habitant la zone où se déroulent les combats de se mettre à l'abri. Le colonel Guillaume Ndjike Kaiko affirme que l'armée loyaliste se comporte bien sur le terrain et contient l'ennemi. Il parle de quelques rebelles capturés. D'après cet officier de l'armée, toutes les initiatives de l'ennemi sont en train d'être jouées par les FARDC. Il est dit à Denise Lukesso.
Il a tenté encore d'attaquer nos positions à Tamugenga. Jusqu'à ce dimanche, nous sommes en train de les contenir. Toutes les initiatives ennemies sont en train d'être déjouées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a déjà même des capturés parmi eux. Nous, sachez que votre armée évolue très bien sur le terrain. Il est plutôt question que la population ait confiance en son armée et surtout qu'elle se mettre à l'abri du fait que l'ennemi tire dans la population qui va au champ, l'ennemi tire sur des motos, déjà avec les mortiers 82 qu'il est en train de tirer, il a déjà causé des pertes en vies humaines du côté population, donc que la population se mette à l'abri et son armée reste déterminée à mettre fin une fois pour toutes à cet ennemi qui n'écoute que les langages des armes.
Et pendant ce temps, des milliers de personnes se sont à nouveau déplacées depuis la semaine dernière dans le territoire de Rutshuru. Cela fait suite à la reprise jeudi dernier des affrontements entre les FARDC et les combattants du M23. Dans un communiqué publié samedi dernier, la coordination de l'action humanitaire en RDC au Tchad dit suivre l'évolution de la situation afin de mieux estimer l'ampleur de ces mouvements et les besoins de nouvelles personnes déplacées. Plus de détails avec vous, Florida Karambou.
Une arrivée massive de personnes déplacées est probable dans les prochains jours, notamment à Rutshuru Centre et sur l'axe Rutshuru Goma, prévient la communauté humanitaire en RDC. Déjà, de nombreuses personnes se sont déplacées vers les localités et villages de Rankera Centre, Rutshuru, Kalenkera, Rubare, Rutshuru Centre, Kiwanja et Matebe. Les communiqués précisent que les statistiques de ces nouveaux déplacés ne sont pas encore confirmées. À côté de ces déplacés, d'autres habitants de la zone se sont réfugiés en Ouganda. Il s'agit de dizaines de personnes provenant de Bunagana, Kabindi et Tchengerero. Ces nouveaux réfugiés congolais sont accueillis dans les camps des réfugiés de Nakivale, loin de la frontière congolaise. Depuis la résurgence du M23 en mars dernier, des affrontements entre l'armée congolaise et le M23 avaient déjà occasionné le déplacement d'au moins 186 000 personnes, portant à plus de 396 000 le total des personnes déplacées dans les territoires de Rutshuru. Le partenaire humanitaire continue d'apporter une assistance dans de nombreux secteurs tels la sécurité alimentaire, la santé, la protection, les abris, la nutrition, entre autres, précise le communiqué. En raison des nouveaux besoins que ces nouveaux affrontements pourraient créer, la mobilisation d'une assistance supplémentaire sera nécessaire, prévient la communauté humanitaire en RDC.
En Ituri, plus de 15 000 personnes déplacées vivent sans assistance depuis 4 mois dans les territoires de Mambasa, à environ 65 km de Bunia. Il s'agit des personnes qui avaient fui les exactions des rebelles des ADF et leurs alliés Maïmaï sur l'axe Loloa Mambasa-Biakato. Ce cri d'alarme a été lancé samedi dernier par le bureau de coordination de la société civile du territoire au terme de l'opération de recensement des déplacés qu'elle a menée pendant 2 semaines. Cette structure citoyenne invite le gouvernement ainsi que les organisations humanitaires à venir en aide à ces personnes dépourvues de tout. Le point avec Ezekiel Moussalia.
Il s'agit par exemple des villages de Mabandiko, Bahaha, Tolitoli, Bandibwale et d'autres situés sur le long du tronçon Loloa-Mambasa, mais aussi ceux de Mayuwano, Bangoussi, sur l'axe Biakato, qui se sont presque vidés de leurs habitants. Ces derniers ont fui des exactions des rebelles des ADF et leurs supplétifs Maïmaï, qui sèment terreur et désolation dans la zone. Certains déplacés vivent dans des hangars des églises où ils ont érigé des tentes de fortune. D'autres encore sont cantonnés dans des familles d'accueil qui, elles aussi, avec des conditions hygiéniques déplorables, explique la société civile locale. Sa coordonnatrice Marie-Noël Anotane.
C'est depuis le mois de juin que nous avons maintenant un afflux considérable de déplacés chez nous. Il y a ceux-là qui passent nuit à l'école, les matins comme ça, ils étalent de leurs objets dehors. Donc, nous appelons tout le monde à nous venir en aide, à avoir des abris pour ces gens-là. Bien
contacter l'administrateur du territoire de Mambasa dit avoir saisi certaines organisations humanitaires pour venir en aide à ces personnes en détresse. Toutefois, le colonel Jean-Baptiste Mounyampandi indique que l'armée poursuit toujours des opérations pour traquer ses ADF dans cette zone et permettre le retour des populations dans leur milieu d'origine. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et à propos de cette crise sécuritaire dans la partie est de la RDC, André Flao, ministre d'État belge et ancien président du Parlement fédéral, pense que la Belgique doit soutenir la RDC dans toutes ses difficultés où qu'elle se présente. Cela notamment par une diplomatie agissante pour amener les protagonistes de cette crise autour d'une table plutôt que de laisser parler les armes. Déclaration faite en marge du rebranding Africa Forum qui s'est clôturé ce week-end à Bruxelles. André Flao est au micro de Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial à Bruxelles.
Il faut effectivement que l'on puisse soutenir la République démocratique du Congo dans toutes les difficultés où que ça se présente. Et il faut absolument que, diplomatiquement parlant, on soit un élément pour amener les protagonistes à se mettre autour des tables plutôt que de laisser parler les armes. Les guerres, ce sont les populations qui en souffrent et les populations les plus faibles. Donc on a un devoir de faire toutes les pressions possibles et imaginables là-bas, ici, à New York et ailleurs, pour qu'on revienne à la raison et que les armes cessent et qu'on revienne à des collaborations peut-être basées sur les richesses économiques de cette région. Nous, après la Deuxième Guerre mondiale, ici, on a recréé la communauté économique du charbon et de l'acier. On a créé l'Union européenne. Plutôt qu'un peuple exploite l'autre, on a utilisé les richesses communes, par exemple dans une communauté économique des pays des Grands Lacs, qui existe toujours et qui pourrait être relancée et qui constituerait une alternative au bruit des armes.
Au sud Kivu, les villes de Kamituga, Baraka et Uvira ne sont pas reprises comme telles sur la cartographie électorale rendue publique par la CENI. La centrale électorale les considère plutôt comme des communes. Pourtant, on regarde l'ordonnance présidentielle du 29 décembre 2018 nommant les animateurs de ces villes, Kamituga, Baraka et Uvira, constituent de plein droit des circonscriptions électorales autonomes. Ce constat est du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, Fédération du Sud Kivu, à travers une correspondance au président de la CENI. Écoutez plutôt le président fédéral de ce parti au Sud Kivu, Nicolas Kalangaliloa, dans cet extrait proposé par Rachel Kessembangou.
Trois villes, la ville de Baraka, de Kamituga et d'Uvira, qui ont été érigées en villes. Et pourtant, lors de l'étape de la cartographie qui vient de se terminer, ces villes n'ont pas été traitées comme des circonscriptions électorales. Pourtant, elles jouissent déjà du droit acquis, puisqu'elles fonctionnent comme des villes de fête. Nous avons donc adressé notre correspondance au président de la CENI et nos inquiétudes, lui demandant d'intervenir pour que cette cartographie soit adaptée par rapport à l'évolution des lois ainsi que de la répartition administrative de la province, faisant ainsi de ces trois villes des circonscriptions électorales.
Au Maniema, la notabilité de Pounia regroupa en son sein plusieurs représentants des différents regroupements de la société civile réclame l'ajout de centres d'inscription omis selon eux par la CENI. Dans une déclaration déposée au bureau de la CENI antenne de Pounia la semaine dernière, cette population s'attendait à avoir 61 centres d'inscription, mais curieusement, il n'a qu'une cinquantaine. La population de Pounia demande qu'elle soit remise dans ses droits pour s'approcher des centres d'inscription. Cette déclaration a été lue par le vice-président de la notabilité de Pounia, Mustapha Kingombe Gustave, au micro de Florence Kizalunga.
Nous entendions à avoir 61 centres d'inscription. Curieusement, nous apprenons des différentes sources que nous avons seulement 53 centres ou soit 55 centres d'inscription. C'est pourquoi, dans les soucis de répondre à l'objectif majeur de la cartographie, qui est de rapprocher les centres d'inscription aux électeurs, nous vous demanderions de bien vouloir respecter les données fournies par les préposés à la collecte des données cartographiques en connivence avec tous les intervenants sur terrain. Nous sommes aussi surpris en lisant les documents sur la restitution du résultat de l'opération de la cartographie. 45 centres d'inscription existants, 32 proposés à la création, 8 centres retenus parmi les centres d'inscription créés, 24 omis ou rejetés. Total 53 centres d'inscription existants plus créés. La CENI Kinshasa parle des 55 centres d'inscription à notre élu national, alors que l'antenne CENI Pougne nous parle des 53 centres d'inscription. À quel chiffre pouvons-nous nous fier?
Contactée à ce sujet, la Commission électorale nationale indépendante, à travers sa direction de communication, appelle les uns et les autres au calme et de préciser par ailleurs que le travail de la cartographie a été fait en tenant compte de tous les paramètres. Et pour y parvenir, la CENI précise qu'elle a augmenté le nombre de centres de vote qui sont passés de 17 000 à 22 271 pour réduire les distances à parcourir pour les électeurs. Toujours dans le chapitre électoral, notez le lancement officiel vendredi dernier de la campagne de sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants des deux chambres du Parlement, du corps diplomatique et des organismes internationaux. Une occasion pour Denis Kadima, président de la CENI, de solliciter l'implication des parties prenantes au processus électoral dans la mobilisation de la population congolaise d'ici et d'ailleurs. Des détails avec Pierrot et Lamange.
Votre présence est la manifestation de votre engagement à accompagner le processus électoral et d'y participer. S'est adressé ainsi Denis Kadima, président de la CENI, aux différents participants à cette cérémonie du lancement de la campagne. Il a confirmé que le processus électoral connaîtra en décembre 2022 le lancement de la révision du fichier électoral. Conscient des contraintes auxquelles son institution fait face, le président Denis Kadima a indiqué que la CENI est décidée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est assignée, celle d'organiser en toute indépendance et impartialité, les scrutins libres, démocratiques et transparents. Denis Kadima a évoqué notamment la cartographie opérationnelle qui a permis de dresser la cartographie des centres d'inscription, ensuite l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui sera lancée au mois de décembre 2022, vient après l'organisation des élections directes et indirectes du cycle électoral et enfin les activités de pérennisation du processus électoral. Denis Kadima Kazadi a également mis en avant dans cette démarche l'étroite collaboration entre son institution et l'Office national d'identification de la population ONIP et l'Institut national des statistiques annonçant le calendrier électoral à venir.
Radio Okapi se déplace à Kananga cette semaine pour une série d'émissions au grand public. Paroles aux auditeurs, dialogue entre Congolais, tribune de presse, Bana Okapi, se produiront au complexe scolaire La Reconnaissance sur l'avenue d'Ibanda et à l'Université pédagogique nationale. Les animateurs de ces programmes seront en face du public et au centre des débats, différents sujets qui touchent la communauté, nous dit François Kadima, que nous retrouvons depuis Kananga.
D'abord pour dialogue entre Congolais, trois thèmes seront débattus avec différents acteurs, membres du gouvernement provincial, députés, professeurs d'université, analystes, sociétés civiles et jeunes. Il s'agit de travaux du barrage Chutkatende pour électrifier la province du Kasaï central. Où en est-on après le passage du président de la République en décembre 2021? L'évaluation des 100 jours du gouvernement provincial conduit par le gouverneur du Kasaï central, Dion Kabeya. La construction de la route Kananga-Kalamambouji qui relie le Kasaï central à la province de Lunda Norte en Angola. À quand les débuts des travaux? Pour parole aux auditeurs, auditeurs, le débat tournera autour de la question de l'indemnisation des victimes de Kamuina Nsapu et comment la population surmonte-t-elle les défis de développement du Kassai Central 5 ans après ce phénomène. La tribune de la presse sera également produite sur place avec le journaliste de la ville de Kananga. Les enfants de Kananga s'exprimeront aussi à travers Bana Okapi dans l'émission Pona Bana. Le public est invité à ces différentes émissions qui seront produites à partir de 10h de Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Niger, au moins 11 civils ont été tués samedi dernier dans des embuscades djihadistes près de la frontière malienne. C'est dans l'ouest de la région de Tillaberi, lorsque des djihadistes s'en sont pris à des camionneurs qui transportaient des vivres et du matériel de construction. Selon plusieurs sources, une trentaine de motos auraient participé aux embuscades. Deux camions ont été incendiés et un troisième chargé de vivres a été emporté par les assaillants. Guerre en Ukraine, Moscou prévient d'un risque d'escalade incontrôlable. Le ministre russe de la Défense s'est entretenu hier dimanche au téléphone avec ses homologues américains, français, britanniques et turcs pour discuter du conflit en Ukraine. Moscou a accusé Kiev de se préparer à utiliser une bombe sale.
L'invité.
Notre invité, la chef de la section des politiques régionales et provinciales au sein de la division politique de la MONUSCO, Altine Traoré, fait le parallélisme entre le mécanisme conjoint de vérification élargie mis en place au sein de la CRGL et le mécanisme ad hoc issu de la feuille de route de Luanda dans le cadre des bons offices du président angolais entre la RDC et le Rwanda. Altine Traoré répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Altine Traoré, bonjour.
Bonjour.
Le mécanisme conjoint de vérification élargie, connu sous le sigle MCVE, fait des enquêtes sur les incidents sécuritaires et fait rapport aux 11 pays membres que compose la CIRGL. Cependant, on parle désormais de mécanisme de vérification ad hoc. Pourquoi un nouveau mécanisme ?
C'est vrai que le fait d'entendre qu'il y a deux mécanismes a entretenu une sorte de confusion. Il faut comprendre qu'il s'agit là de deux organes très proches, mais également distincts. Le mécanisme conjoint de vérification élargie est un organe de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est un organe qui comprend donc les 12 membres de la CIRGL et qui est composé d'experts militaires de ces 12 États membres et également d'officiers de liaison de la SADC, de l'Union africaine et de la MONUSCO. Donc, et effectivement, leur rôle, comme vous l'avez déjà dit précédemment, c'est de mener des enquêtes sur les incidents sécuritaires qui impliquent les États membres de la région. En ce qui concerne le mécanisme ad hoc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Union africaine a désigné le président Lourenço à sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour mener un processus de réconciliation, de discussion entre la RDC d'une part et le Rwanda de l'autre part à la suite des incidents que vous connaissez sur lesquels je ne reviendrai pas. Cela étant fait, donc, le président Lourenço a commencé son travail de bons offices avec les deux présidents et s'est tenu d'abord à Luanda, dans un premier temps, une réunion tripartite le 6 juillet avec le président du Rwanda d'une part et le président de la RDC d'autre part. À cette occasion, ils ont adopté une feuille de route et ils avaient également décidé de réactiver ce qu'on appelle les commissions mixtes permanentes et la commission mixte permanente RDC-Rwanda. Celle-là s'est réunie quelques jours après, le 21 juillet, RDC-Rwanda, représentée par les deux ministres des Affaires étrangères. Alors, c'est à cette occasion-là que ce fameux mécanisme ad hoc est apparu. Et la mise en place d'un mécanisme, qu'on a appelé donc un mécanisme ad hoc, de vérification des allégations communes. Ce mécanisme, il entre donc dans le cadre des bons offices du président Lourenço. Il est composé d'un général angolais et d'une équipe d'observateurs angolais. Et ce qui est important, c'est qu'il y a également deux officiers de liaison, un officier de liaison congolais et un autre rwandais. Alors, c'est dire que il y a effectivement un mécanisme conjoint de vérification élargie basé à Goma, qui est un organe de la CIRGL, mais dans ce cas précis, pour vérifier les allégations de part et d'autre de ces deux pays, il a été préféré d'avoir un mécanisme qui rentre dans le cadre des bons offices du président Lourenço, totalement piloté par l'Angola, et qui va vérifier les allégations de part et d'autre.
Donc le mécanisme ad hoc concerne exclusivement le différent RDC-Rwanda.
Absolument.
Alors, il y a également un centre de fusion des services de renseignement à Goma. Quel est son rôle et en quoi diffère-t-il du mécanisme conjoint ?
La grande différence, c'est que le centre de fusion comprend des officiers du renseignement. Il est composé donc de deux officiers de renseignement par pays de la CIRGL et il y a un comité de coordination régionale qui est lui-même également tournant. Donc, le centre de fusion est avant tout un centre qui permet de fusionner les renseignements au niveau des pays de la région des Grands Lacs.
Dernière question, madame. Quelle collaboration entre le mécanisme ad hoc et la nouvelle force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont une partie est déjà sur le sol congolais?
Comme vous le savez, il y a actuellement deux processus en cours. Donc, le premier dont on a parlé pour l'instant, ce qu'on appelle la feuille de route de Luanda, le processus de Luanda dirigé par...
Le président angolais.
Absolument. Il y a un second processus qui est donc le processus de Nairobi, qui a deux approches, comme vous le savez, une approche militaire et une approche politique. Et dans ce cadre-là, vous remarquerez que dans les conclusions de la réunion de la commission mixte, notamment, ils avaient appelé à travailler en coordination avec le processus de Nairobi et avaient d'ailleurs appelé au déploiement de la force régionale. Donc, les deux processus sont totalement complémentaires. Et tout comme dans le processus de Nairobi, la voie militaire et la voie politique sont complémentaires et doivent aller de pair, le processus de Luanda vient également en appui pour essayer de résoudre les différends qu'il y a entre ces deux pays-là, mais cette fois par la CIRG.
Altine Traoré, merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de ce journal, la chef de la section des politiques régionales et provinciales de la division politique de la MONUSCO. Altine Traoré répondait aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Merci de continuer à suivre ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.